François Varillon est décédé en 1978, il y aura 20 ans l'an prochain. Un 17 juillet, en plein été. Je devance donc sa fête, car je suis sûr qu'il a dû rentrer au ciel tout droit. C'était un homme admirable. Un prédicateur dont la vision du christianisme était centrée sur la joie de la foi. Pas une joie triste, non, une joie pleine d'amour et de joie. C'est formidable. Ses écrits sont superbes. Une grande partie des auditeurs sans doute connaissent « Joie de croire, joie de vivre hein », paru au Centurion. Et puis, « La parole est mon royaume », quel beau titre, ce sont des livres posthumes. Mais il avait écrit auparavant des livres qui avaient fait sensation par la beauté de ces livres, l'humilité de Dieu, la souffrance de Dieu. J'ai aussi ce débat sur la foi entre Marcel Legault et lui-même, une centaine de pages, extrêmement intéressantes. Mais il y a tellement de livres à lire, et sur lui, et de lui, que je ne saurais trop vous recommander si vous en voyez, ouvrez-les. C'est passionnant. C'est un des grands théologiens de ce siècle, à mon avis. C'est le théologien, je dirais, à la Saint-Jean. Il est très joannique. Je vous ai dit qu'il est mort le 17 juillet 1978. Et il aura toujours profondément une influence énorme sur les générations de chrétiens. Il a engagé avec lucidité et intelligence quelque chose de très important, à mon avis, c'est le dialogue entre la foi puis la pensée contemporaine. Comment croire aujourd'hui dans un monde où on remet tout en question? Et je crois que la clé qu'il nous ouvre, qu'il nous donne, nous permet d'ouvrir des portes merveilleuses. Cet homme est né en 1905, un 28 juillet. Il est né à Bron, c'est-à-dire dans la banlieue de Lyon. Il était le fils de Pierre Varillon et de Jeanne Desplaces. C'est des parents pratiquants, puis il a reçu une éducation, comme il dit dans une entrevue qu'il a accordée, une éducation sévère mais intelligente. Sévère mais intelligente. J'aimerais bien qu'on donne encore une éducation comme ça à tous nos enfants. Sévère dans le bon sens, mais intelligente. Et il ajoutait, voilà une situation bien courante alors, au début du siècle. Il avait une santé fragile, ses parents ont donc favorisé une certaine tranquillité autour de lui. Il était plutôt donc un enfant assez sage. Le climat à la maison n'était pas trop sévère. Son père racontait d'ailleurs ses souvenirs. C'était beau dans ce temps-là où la radio ne jouait pas tout le temps, la télévision n'était pas ouverte, les parents pouvaient raconter des souvenirs. Et puis, il aimait, son père chantait l'opéra, il chantait des airs favoris de ce temps-là, des airs de Meyerbeer, de Rossini. Et ça me rappelle, moi, dans mon jeune temps, on chantait, quoi, du Botrel, des airs d'opéra, oui, toutes sortes de choses. C'était vraiment agréable à la maison. Mon frère Guy chantait beaucoup. C'était merveilleux et on chantait même un peu de grégorien des fois. Et c'était la même chose chez lui. Il dit « Mes souvenirs, ma vie commence vraiment quand je suis arrivé au collège des pères maristes. » Il a donc eu une influence des maristes au début. C'était à l'automne 1915, il avait 10 ans. Alors, il est devenu, à 16 ans, bachelier. Il a fallu une dispense pour ça. Bachelier à 16 ans, c'est très jeune. Le frère de ma mère était bachelier comme ça au Collège Sainte-Marie à 16 ans vers 1908-1909. C'était exceptionnel. Il était demi-pensionnaire, lui, à Lyon, le père Varillon, le jeune François Varillon. Et sa vie au collège a été sans histoire. Sauf que, évidemment, bien, à cette époque, comme ça l'est encore pour bien des gens, la religion se présentait comme une certitude, simplement, indiscutable. L'Église, c'était une vérité, là, qui allait de soi, on ne pouvait pas remettre ça en question, il n'en était pas, on ne discutait pas de ça. Il y avait une accentuation sur la peur des châtiments éternels, hein. C'est l'éducation que j'ai reçue, moi. Et il déclare « J'ai été imprégné d'une religion dont il m'a fallu en grande partie me débarrasser par la suite. » Comme il a raison. Il faut se débarrasser de cet aspect d'un christianisme qui est très faussé. et il l'a bien expliqué, et ses livres portent sur cette question-là, qui nous permet au fond de transmettre aux jeunes et autour de nous une foi beaucoup plus vivante et beaucoup plus intéressante, un catholicisme immense à la dimension presque de l'amour infini de Dieu. Alors sans jamais avoir pensé à la vie religieuse auparavant, c'est au moment de la retraite, de la fin de ses études, les étudiants faisaient des retraites à cette époque, à la fin de leurs études, c'était organisé par les maristes. Et puis là, il se sent appelé, mais c'est très, très spécial. La vie religieuse était alors présentée évidemment comme une vocation suprême, et je crois qu'elle l'est demeurée, moi, à mon avis. Peut-être que je suis vieux jeu, vieille France, ou je ne sais quoi, mais je pense que la vocation religieuse, la vocation sacerdotale, c'est quelque chose d'immense. C'est le « viens, suis-moi » de Jésus. Laisse tout et suis-moi. Non pas que la vocation au mariage ne soit pas grande. Qu'est-ce que c'est que la vocation au mariage si ce n'est pas la collaboration avec Dieu créateur? C'est fantastique le mariage. C'est un sacrement, plus de ça. En tous les cas, sans raison vraiment de dire oui, sans raison de dire non, le jeune François Varillon vit comme ça ses premiers instants là, de façon plus ou moins négative. C'est « pourquoi pas moi ?»« Pourquoi pas moi hein? ?» C'est pas une très belle vocation. Mais ça va devenir immense. Ses parents entretiennent à son sujet d'ailleurs l'espoir qu'il va devenir notaire. Alors son père, sans s'opposer à sa vocation, lui conseille d'étendre ses horizons au-delà des maristes, au-delà des religieux, puis du sacerdoce, il veut qu'il poursuive ses études. Alors il désire être professeur. Alors il fait un rapprochement entre la vie religieuse puis les maristes, qui sont essentiellement des professeurs. Il y songe. Il avait 17 ans quand il choisit finalement la faculté des lettres pour aller étudier la littérature tout en poursuivant son droit, parce qu'il fait des études de droit comme l'exige son père. Il a 17 ans, c'est un enfant sérieux, comme vous voyez. Et toujours en lien avec les pères maristes, eh bien, il fréquente, c'est là que ça commence, la maison des étudiants catholiques qui est dirigée par les jésuites. Et il respecte comme ça le désir de son père, et ainsi commence sa vie étudiante. Mais pour obtenir 4 certificats qui sont exigés par la licence d'enseignement, le permis d'enseignement, il étudie 3 langues, le français, le latin et le grec, puis la philosophie, ce sont les 4 certificats. Bien, Varillon s'attelle avec sérieux aux lettres qu'il aime de plus en plus. Puis là, il délaisse le droit et petit à petit, il va couper les liens avec les maristes pour renforcer ceux qu'il a avec les jésuites. Et puis, il va rencontrer l'Association catholique de la jeunesse française. Et là, l'aumônier de ce groupe, c'est le jésuite. Et puis, il avait une spiritualité jésuite extrêmement forte, très ouverte, très sociale aussi en même temps, incarnée, quoi. Et ça, c'était le début de la vie apostolique de François Varillon. Le dimanche, il était étudiant, bien, il y avait des tournées de propagande, même chez les curés, dans les paroisses. Puis le début des conférences destinées aux jeunes des campagnes et des bourgs. Il disait « Nous voulions donner aux jeunes un christianisme sérieux, bien étudié. » Je vous ai dit ça, c'est parce que dès son enfance, voyez-vous, il est marqué. Il sera un prédicateur, un conférencier, un transmetteur de la foi vivante et joyeuse. Il est donc entré dans la compagnie de Jésus finalement en 1927. L'idée d'être prêtre, dit-il, m'est venue assez brusquement. Au cours d'une retraite, comme je vous ai dit tout à l'heure, de fin d'études, ça s'est imposé comme une évidence, dit-il, contre laquelle il n'était pas question d'aller. Cela, ajoute-t-il, allait presque de soi pour un chrétien qui voulait être pleinement logique avec sa foi. Alors, il y a un prêtre qui a pesé sans aucun doute sur sa vocation, sur ce qui allait être sa vie durant, sa conviction centrale de chrétien. Il dit, à l'époque, être chrétien et à plus forte raison se faire prêtre ou religieux, c'était d'une certaine manière renoncer à la joie. Ben oui, renoncer à la joie, c'est pas vrai, hein? Mais c'est l'impression que ça laissait dans ce temps-là. Et il ajoute, c'est dans la bouche du père Monnier, jésuite, que j'entendis pour la première fois de façon nette, d'une part, le mot de Saint Jean, Dieu est amour. Et c'est sur ce « Dieu est amour » qu'est établie toute la vie de François Varillon. Et j'avoue que moi, depuis mon adolescence, c'est la même chose. J'ai toujours eu des problèmes avec la foi catholique, tout en demeurant catholique. Parce que pour moi, Dieu est amour. Mais on me dit toujours quand je dis ça, « Oui, mais il est juste !» Ah, Seigneur Dieu, on va s'avancer, on va avancer. Il y a la parole de saint Paul aussi, « Vous avez été appelés à la liberté. » C'est très beau, cette parole. Alors, cette certitude que la foi, loin d'être affaire de mortification, c'est un appel à la joie, non pas que la mortification ne soit pas une bonne chose, non pas que la pénitence ne soit pas une bonne chose, non pas que la discipline ne soit pas une bonne chose. Tout ça doit être fait dans la joie. Dans la joie et l'amour. Et le Père Varion va forger toute sa foi au contact de Paul Claudel à un moment donné. Il est animateur d'une petite revue de réflexion. Il avait osé demander des textes à cet immense poète dont je vous ai parlé il y a quelques jours, qui très gentiment s'est prêté au jeu. Alors une amitié est née de cette rencontre, et c'est à François Varion que Claudel a confié le soin de publier, après sa mort, son journal. C'était un travail immense. Si une autre religion que le christianisme présentait pour moi, dit François Varion, une joie plus haute et une beauté plus grande, j'abandonnerais le christianisme, tellement il est convaincu que le christianisme ne présente vraiment la joie la plus haute et la beauté la plus grande. Il a répété ça toute sa vie. Il était révulsé par l'idée de Renan, là, que la vérité est peut-être triste. Non, la vérité n'est pas triste. La vérité est remplie d'une joie immense. Être chrétien, c'est être l'homme le plus, ou la femme le plus joyeux de la terre. C'est un intellectuel de haut vol que le Père Varion. C'est un homme engagé aussi. Il ne s'est pas contenté de réfléchir. Sa pensée doit sans doute beaucoup à ces nombreuses années qu'il a passées dans les rangs de l'Association catholique de la jeunesse française. Il dit « C'est un grand moment de ma vie. J'y fus aumônier général adjoint au cours des années décisives de son histoire, de la période de l'occupation allemande, là, pendant la guerre, jusqu'à 1956, l'année où est disparue cette association. Or, dans les rangs de cette association catholique de la jeunesse française, François Varion a creusé le sillon d'une forte conviction. C'est que les chrétiens doivent s'engager dans le monde, être présents dans la société moderne. Il leur faut pour cela, je le répète, et je ne le répéterai jamais assez, une culture vraie et solide. J'ai consacré ma vie à ça à la télévision, je la consacre encore ici. C'est dans ce souci, dit-il, de formation des laïcs chrétiens, qu'il a voulu élaborer ces éléments de doctrine chrétienne qui ont été, grâce à la simplicité et à la précision de son écriture, un grand, grand succès de librairie. Et puis, il a nourri un dialogue constant entre prière et l'action. C'était un homme de prière. Et le Père Varion aurait toute sa vie polarisé son ministère là, sur un acte central, quoi? Parler encore et toujours de Dieu. Parler de Dieu. On n'en parle pas assez de Dieu, je trouve. On ne l'aime pas assez. Et basé à Lyon, il a sillonné la France entière par des conférences qui souvent ont marqué les mémoires des gens, converti des tas de gens. Et lorsqu'à l'occasion de l'une ou l'autre de ces soirées, le public lui demande de résumer son credo, il commence toujours par affirmer « Il est difficile de parler sérieusement de Dieu et pourtant, il le faut !» Et le religieux se risquait alors à une parole personnelle, bien plus vivante que tous les dogmatismes des catéchismes. Il a su faire vivre Dieu, le rendre vivant, le rendre beau, merveilleux dans tout son amour, au cœur de tant de catholiques. Je vous disais que le Père François Varion tenait à parler de Dieu. Or, pour François Varion, le Dieu que nous a révélé le Christ, dit-il, n'est pas un être immobile, proposant comme fin dernière le repos absolu au terme de l'existence humaine. Ce Dieu qui est en nous, plus moi-même que moi, selon le verset de Paul Claudel, si souvent repris et médité, plus moi-même que moi, est un Dieu vivant, actif, présent au cœur de notre propre action. Et selon la belle formule du Père Varion, Dieu est l'initiative de nos initiatives. C'est pour ça qu'on prie l'Esprit Saint. La Trinité, c'est l'initiative, de toute façon, de nos initiatives. Cette formule qui n'a de sens que si vraiment on lit bien les évangiles et les épîtres et la grande tradition de l'Église et les textes de la messe. Aucun de ses auditeurs a pu oublier d'ailleurs cette formule qui était absolument extraordinaire, qui associe indissolublement l'affirmation de notre liberté créatrice puis la reconnaissance de l'amour, auquel cette formule emprunte son principe même. Il faut reconnaître que Dieu nous aime profondément. S'il fallait résumer le cœur de la foi vive et incandescente de François Varillon, il faudrait sans hésiter reprendre le titre d'un de ses livres, c'est « L'humilité de Dieu ». Il dit bien « Dieu est humble » dans le sens où le véritable amour ne surplombe pas l'être aimé et ne le domine d'aucune manière. Parce que le Dieu auquel François Varillon a cru au point de lui consacrer sa vie est à 100 lieues du Dieu tout-puissant, dominateur, culpabilisateur, dont une certaine conception du christianisme a pu forger le masque. L'amour vrai est humilié. L'amour vrai, c'est l'humilité et la pauvreté. Dans un très beau livre publié par un Québécois, Paul Meunier, François Varillon, une spiritualité de la vie chrétienne, paru au Centurion il y a quelques années. Il parle de l'humilité de Dieu à un moment donné de façon absolument magnifique. Il dit « Pour comprendre l'humilité de Dieu, partons de l'expérience de l'amour humain. L'aimant ne peut pas dire à l'aimé « Je t'aime, mais n'oublie pas que je suis supérieur à toi. » L'amour qui n'est qu'amour ne surplombe jamais. Aimer en regardant l'autre de haut, ce n'est pas vraiment aimer. L'amour du plus aimant n'est amour que dans l'acte, où il nie sa supériorité en se faisant l'égal de l'aimer. Le véritable amour ne peut être qu'humble, car l'humilité est l'aspect le plus radical de l'amour. L'humble n'humilie pas, car sa profondeur d'être s'y oppose. Le plus aimant est donc le plus humble. L'infiniment aimant, Dieu est infiniment humble. C'est ce que dit François Varillon. L'humilité est ainsi une valeur essentielle à l'amour. Et si l'amour est le plus humble de tous les êtres, l'amour avec un grand A, Dieu, si l'amour est le plus humble de tous les êtres, il ne peut pas regarder l'homme avec condescendance. Le mode d'être de Dieu est d'être avec. Celui de Jésus aussi, il nous l'a prouvé par toute sa vie, Jésus. Quand il lave les pieds de ses disciples, lui qui est Dieu, ce n'est pas seulement une leçon d'amour fraternel, c'est aussi la révélation de l'être même de Dieu. Une toute-puissance d'amour, c'est ça. Sa toute-puissance, c'est l'amour. Or, la puissance de l'amour se veut librement un renoncement à la puissance. C'est ça la puissance de l'amour. Et telle est l'humilité de Dieu. Elle est la profondeur même de Dieu. Et en ce sens, Dieu ne peut pas, dit François Varillon, ne peut pas tout. Il ne peut que ce que peut l'amour. Mais il peut tout ce que peut l'amour. Comme on rejoint la pensée de la petite Thérèse de Lisieux. L'humilité de Dieu n'a ainsi rien à voir avec la faiblesse ou la déficience. Il dit aussi « Dieu est puissance illimitée d'effacement de soi ». C'est une immense intuition. Il dit aussi « Tant qu'on n'a pas compris que la toute-puissance de Dieu est une toute-puissance d'effacement de soi, tant qu'on n'a pas expérimenté dans sa propre vie qu'il faut plus de puissance d'amour pour s'effacer que pour s'exhiber, tout ce que je viens de dire est littéralement inintelligible. Alors Dieu se dévoile par ce qu'il fait. » Et particulièrement par la vie et la mort de Jésus-Christ. A-t-on compris ça, que c'est ça l'incarnation? Dieu se dévoile par ce qu'il fait, et particulièrement par la vie et la mort de Jésus-Christ. Son œuvre est une œuvre d'humilité qui révèle un Dieu infiniment humble. L'incarnation de Dieu et sa mort sont des actes d'humilité, ainsi que ses paroles, ses gestes, ses attitudes et ses options. Bref, sa personne tout entière se veut humble. Si l'être de Jésus est humilité, c'est que Dieu est être, avec une majuscule, est être d'humilité. Donc si l'être de Jésus est humilité, c'est que Dieu est être d'humilité. S'il y a une kénose du Christ, la kénose, ça vient du grec, la kénos, vide ou vidé. Le concept de la kénose, c'est l'arrière-plan des réflexions de Varion sur l'humilité de Dieu. S'il y a une kénose du Christ, c'est qu'en sa profondeur même, Dieu est kénose, c'est-à-dire acte de livraison sacrificielle de soi. Par sa mort déshonorante sur une croix, Jésus s'est réellement anéanti, s'est vidé, voyez-vous, vidé de soi. En Jésus-Christ, Dieu se manifeste essentiellement puissance et acte de kénose. Il n'est pas l'être qui s'efface, mais acte de s'effacer. Ça semble un peu compliqué, mais finalement, il faut dans le même élan là, affirmer l'humilité de Dieu puis la nier. Dieu est humble, Dieu ne l'est pas. La négation traverse l'affirmation, mais sans l'abolir. Aucun concept n'est susceptible d'englober Dieu de toute façon. Tout ce qu'on peut dire de lui est bien loin de ce qu'on devrait dire de lui. Car on n'arrivera jamais à dire de Dieu ce que nous devons dire de lui. En lui, les contraires coïncident de façon absolue. L'analogie avec l'expérience humaine de l'amour se trouve à la fois utile puis limitée. Elle signifie Dieu, signifier, avoir un sens, être le signe de, si vous voulez. Elle signifie Dieu sans le représenter. François Varion disait « Je dirais donc que Dieu est humble, sachant qu'il ne l'est pas comme peuvent et doivent l'être les hommes. » C'est pas pareil. Alors ne nous y trompons pas, mais sachons qu'on peut parler de l'humilité de Dieu. C'est la croix qui révèle l'être même de Dieu. Un homme défiguré dévoile l'être éternel sans figure. Oh, la sainte face de Jésus sur le Saint-Suaire. Voilà bien le cœur de la foi du jésuite lyonnais. L'humilité de Dieu va jusqu'à la souffrance. Il ne sera pas donné aux hommes d'image plus parfaite de Dieu, tel qu'il est en lui-même, que l'homme Jésus agonisant, outragé, crucifié. Dieu choisit en s'incarnant de partager l'angoisse, la souffrance et la finitude humaine. Il est urgent d'éliminer de notre esprit cette idée selon laquelle le Père, à cause de la perfection de sa nature, surplomberait la souffrance des hommes sans en être lui-même douloureusement affecté et meurtri. C'est ce que dit François Varion. Cette humilité de Dieu est comme la main tendue vers l'homme, immortalisée. Vous savez pas le beau tableau de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine? Cette grande fresque admirable. Quand François Varion dit que Dieu est amour, il faut bien comprendre ce que ça veut dire pour lui. Vous savez, on trouve cette expression que Dieu est amour, c'est dans l'épître, la première épître de Saint Jean. C'est au chapitre 4, hein, vous l'avez déjà dit il y a quelques jours. Puis il répète deux fois cette formule, Saint Jean. Or, François Varion dit... Il nous faut comprendre, Dieu n'est qu'amour. Nous savons tous depuis toujours que Dieu est amour, mais qu'il ne soit qu'amour, il n'est pas sûr que nous en soyons convaincus. Et voici comment je méditerai cette vérité. Si Dieu n'est qu'amour, je ne dois pas dire que Dieu est tout-puissant. Puisqu'il n'est qu'amour, il n'est pas autre chose. S'il n'en va pas ainsi, ne disons pas que Dieu n'est qu'amour. Disons qu'il est tout-puissant, et qu'il est aussi amour, et qu'il nous aime aussi. C'est dangereux ce qu'il vient de dire, hein? Mais il faut continuer, c'est très important. Je continue la lecture de ce beau texte de François Varion, paru en 1992, donc 14 ans après sa mort, aux éditions du Centurion, dans « Vivre le christianisme », c'est sa dernière retraite. Qui avait été donné, puis on avait pris des notes. Alors je continue. François Varillon dit « Je vous demande avec une insistance aussi forte que j'en suis capable d'être impitoyable pour ne jamais, jamais m'être rendu autre chose que de l'amour. Donc il n'est pas tout-puissant. Tant pis pour le moment, pour les conséquences. Dieu est-il grand? Non, non et non, il n'est qu'amour. Dieu est-il sage? Non. Non, et c'est non, il n'est qu'amour. Je vous demande de passer impitoyablement par cette phrase de négation radicale. Alors, où s'en va-t-il? Moi, ça m'inquiétait quand j'ai lu ça. Je dis, hé, là, là. Alors, j'ai continué. J'ai trouvé ça très beau. Il dit, Dieu n'est qu'amour. Il faut comprendre par le dedans ce ne que, ne qu'amour. Hein? Car tout est dans ce ne que. Si nous biffons ce ne que, nous ne sommes plus devant Dieu, nous sommes devant Jupiter. Et ce n'est pas le moment d'adorer Jupiter. On ne l'a que trop fait, et nous l'avons payé très cher, et nous le payons encore très cher. Dans la prière, en vous tenant devant Dieu, faites ce petit exercice. Vous écrivez sur la gauche de votre page « Dieu est ». Puis vous placez sur la colonne de droite la liste des attributs de Dieu. Vous connaissez ça. Et vous obtenez ceci, hein? Dieu est tout-puissant, Dieu est infini, Dieu est beau, Dieu est amour, Dieu est sage, etc. Puis, vous biffez l'amour de la liste des attributs, puis vous le faites passer comme sujet de la phrase, hein? Le sujet, le verbe, le complément, le sujet. Alors vous avez, l'amour est tout-puissant, l'amour est infini, l'amour est beau, l'amour est sage, etc. C'est tout. Cela paraît simple. Et c'est une révolution si vous voulez bien le prendre au sérieux. Et c'est pas bête du tout. J'ai trouvé ça extraordinaire quand j'ai lu ça. Il ajoute, nous pouvons donc dire dans une formule qui peut paraître un peu abstraite, l'amour n'est pas un attribut de Dieu. Mais les attributs de Dieu sont les attributs de l'amour. Si je dis Dieu est tout-puissant, je pose un infini de puissance. Et le résultat est ce qu'on me disait quand j'étais gamin. Dieu est tellement puissant que s'il le voulait, il pourrait m'anéantir et anéantir le monde entier. On aboutit à une toute-puissance qui peut être une toute-puissance de destruction. Et on ajoutait, mais il nous aime, et donc finalement, il est très gentil. Cette conception, selon Varillon, il le dit lui-même, cette conception est abominable. Il faut dire clairement, il n'y a pas d'autre puissance en Dieu que la puissance de l'amour. Un amour tout-puissant. C'est un amour dont nous n'avons pas l'expérience. Un amour tout-puissant, c'est l'amour qui va jusqu'au bout de lui-même. Qu'est-ce qu'un amour qui va au bout de lui-même? Deux lignes s'imposent. D'abord, la mort. Il n'est pas de plus grand amour que de mourir pour ceux qu'on aime. C'est cela la puissance de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Et François Varillon termine ce petit texte. C'est la puissance de mourir pour ceux qu'il aime. Et la deuxième ligne, c'est le pardon. Le pardon, c'est la toute-puissance de l'amour. Votre amour est-il assez puissant pour pardonner à ceux qui vous ont offensé gravement? C'est pas facile. Il faut dire que François Varillon avait des goûts culturels, des curiosités littéraires, des sympathies artistiques. Il était très varié, un homme extrêmement cultivé. Il aimait. C'était un homme d'amour. Il aimait également Bach et Schoenberg. Il réconciliait Mozart et Wagner. Avec un doute, peut-être. Il se reprochait plutôt le plaisir qu'il prenait à écouter du Wagner, qu'il trouvait un peu suspect. Mais c'était un écrivain, François Varillon, qui n'y était pas seulement parce qu'il s'intéressait aux écrivains, il écrivait bien. Il était lui-même vraiment un écrivain au plein sens du mot. Donc il aimait la beauté. Que sur la foi de tout ça, ceux qui n'ont pas eu la chance de l'approcher, le privilège de l'entendre, dit-on, ne peuvent pas s'imaginer autre chose qu'un, peut-être un homme de lettres, un de ces ecclésiastiques beaux esprits qui fréquentaient les salons littéraires, qui réduisait son ministère en compagnie des gens de lettres. C'était pas comme ça qu'était François Varillon. François Varillon était un vrai prêtre jésuite. Il était d'abord essentiellement un prêtre, un religieux, un homme de Dieu. La littérature n'a jamais été conçue pour lui comme un divertissement. Ça ne l'a pas détourné de son ministère. C'était avant tout un homme de Dieu. Tout s'ordonnait et gravitait autour de l'unique nécessaire, comme l'écrit si bien René Raymond. Et le moment est donc venu, peut-être, d'essayer de définir cette forme de ministère originale. C'était d'être aumônier, de prêcher, de parcourir, d'aller animer des communautés de foyers fondées sur la volonté de vivre en plénitude l'amour conjugal. Alors il a appuyé le chanoine Henri Caffarel, qui a fondé les équipes Notre-Dame. Il y avait cinq verbes sur lesquels il appuyait toute son action. Donner, pardonner, offrir, demander, puis recevoir. C'était proposé, ça, au foyer des équipes Notre-Dame. C'était la spiritualité des laïcs. C'était sa spiritualité. Il s'est trouvé, à l'origine, au début de l'occupation, était à l'origine du premier cahier de témoignages chrétiens, le fameux journal qu'on lisait quand nous étions jeunes, ça venait de France, c'était donc intéressant à lire. C'était le premier qui était rédigé par le fameux Gaston Fessard. Bon, il faudrait que je vous parle un jour. France, prends garde de perdre ton âme. Il faudrait publier aujourd'hui en première page de tous nos journaux. Québec, prends garde de perdre ton âme. Entre 1941 et 44, il a été associé à ce groupe de théologiens qui n'était pas mandaté, peut-être, c'est la guerre, qui a eu un si grand rôle dans la formation des catholiques. Il a joué un rôle important auprès des mouvements d'action catholique. Il se plaisait à dire que ces années ont été pour lui une expérience incomparable. Il n'y a jamais eu, ni dans la pensée, ni dans la pratique de François Varillon, le moins dissociation, si on peut dire, en ce qu'on appelle quelquefois aujourd'hui, l'horizontal puis le vertical. Donc, ça faisait une croix dans sa vie, ça. Les deux s'unissaient et s'articulaient profondément. Son intervention se situait précisément, si on peut dire, à la jointure des deux, avec une discrétion puis une humilité qu'il partageait avec la plupart de ses confrères jésuites, qui étaient admirables. Que de jésuites admirables! L'Église a eu à cette époque en France, c'était fantastique. Il n'y avait pas personne de moins clérical que lui. Il n'était pas clérical du tout. Il croyait profondément à la nécessité de former des chrétiens adultes, des hommes responsables. Et puis, il n'y avait pas d'autre pédagogie, au fond, que d'inciter à prendre des responsabilités. Il écoutait, il rappelait la signification, la bonté, l'inspiration de l'action. Il guidait la recherche de Dieu, et c'est en partie à l'occasion de cette expérience qu'il a été amené à s'interroger sur la façon d'annoncer Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure. Comment annoncer Dieu? Comment faire connaître la parole de Dieu aux auditeurs de ce temps? Cet homme a aidé tellement de laïcs que j'en profite pour remercier tous les prêtres qui m'appuient, qui me soutiennent dans le travail que je fais. Il y avait deux inquiétudes qui l'avaient saisi, François Varillon, deux exigences qui le motivaient. La première, c'était d'être compris de tous, accessible. Il voulait trouver un langage qui permette d'être de plein pied avec des auditoires très variés. On l'a vu, on l'a entendu s'adresser à des militants syndicalistes, à des ingénieurs, à des militants ruraux qui n'avaient pas fait d'études. Puis, en toutes les circonstances, il déployait une espèce de pédagogie merveilleusement efficace parce que c'était dépouillé, c'était à l'écoute des autres. Une grande préoccupation d'aider les autres. Il a travaillé en collaboration avec le père Congard. Il a fait des fiches de culture religieuse exprès pour ça. Ça a donné naissance à ce fameux livre, Éléments de doctrine chrétienne, qui était comme un best-seller dans la collection Livres de vie. Sa seconde inquiétude, c'était d'ordre proprement intellectuel. C'est assez rare de voir le même homme, ce qui se pose le problème de l'audience populaire, d'être compris par la foule, puis de rigueur intellectuelle, puis essayer de ne pas sacrifier quoi que ce soit. Être simple, mais être profond. Il a été des premiers à prendre au sérieux l'incroyance moderne, à tenir compte sous l'influence du père de Lubac, qu'il aimait beaucoup, à tenir compte, quoi, de l'athéisme, du refus, de l'aliénation qu'aux yeux de beaucoup la croyance en Dieu entraînait pour l'homme. Combien de gens nous disent que croire en Dieu, ça aliène l'homme, c'est tout le contraire. Il a toujours refusé toute sa vie ce dieu jupitérien, ce dieu détestable. Il reconnaissait ce qu'il y avait de légitime dans la volonté de l'homme, d'être autonome. Il n'a pas cessé depuis le moment où cette inquiétude s'est éveillée en lui, jusqu'à son dernier souffle. Il a toujours lu les philosophes, les anciens, les modernes, Hegel, Nietzsche, Marx, même les philosophes du soupçon, Sartre, les existentialistes, ils voulaient comprendre où se situaient les autres pour pouvoir les mieux aimer, les mieux comprendre. Il essayait d'élaborer des réponses. Il était convaincu de la vertu de l'effort intellectuel. C'est ce qui nous manque beaucoup dans le catholicisme actuel ici au Québec. Je vous ai fait une émission consacrée exclusivement à ça. C'était le 22 avril dernier, il y a quelques jours. Il n'était pas de ceux qui croient possible d'éviter au fond la réflexion. C'était pas le genre qui pensait qu'on pouvait passer sans transition là, d'une espèce d'expérience pratique, d'une certaine profondeur spirituelle vague à une véritable profondeur spirituelle. Pour lui, c'était du fidéisme, ce dont je vous ai parlé le 22 avril. C'était un homme de grande foi. Il avait un réel talent de conférencier. C'est pas facile de le définir. Mais quiconque, paraît-il, l'a entendu, une fois, ne pouvait oublier cette voix grave, cette diction qui détachait les mots, qui soulignait les idées, une élocution qui mettait en valeur les idées, sans effet oratoire, sans recherche autre que celle de l'expression. Au service exclusif d'un texte dense, un texte ordonné, à l'annonce de l'essentiel, l'amour de Dieu. Constamment repris, puis toujours renouvelé dans leurs expressions, les thèmes essentiels de François Varillon reviennent constamment dans ses conférences. C'est difficile d'en faire un résumé. On peut résumer ainsi. Dieu est un être personnel, Dieu est amour. L'amour n'est pas un attribut de Dieu. Effectivement, on peut dire que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est infini, mais l'amour ne se situe pas au même plan. Il n'est pas un attribut de Dieu, c'est l'être même de Dieu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il faut donc substituer à Dieu le mot amour. Et c'est l'amour qui est infini, l'amour qui est tout-puissant, l'amour qui est transcendant. Et ce Dieu personnel n'est pas jaloux de notre liberté. Il en est respectueux. C'est lui qui l'a créé, lui qui l'a voulu. Il est au principe de notre action. Il n'y a donc pas contradiction entre la reconnaissance de Dieu puis l'affirmation de l'autonomie de l'homme, car il est au principe même de l'exercice de notre liberté. Il est l'initiative de nos initiatives, comme je vous disais tout à l'heure. Je vous disais que si Dieu est amour, il n'est pas un Dieu jaloux. C'est pas le Dieu dominateur, c'est pas Jupiter, je vous le répète, je reviens là-dessus, c'est très important. Entre deux êtres, quel est le plus démuni, le plus dépendant? C'est celui qui aime le plus. Dans la relation, donc, entre Dieu et nous, c'est Dieu qui est le plus dépendant et qui est humble. Jean-François Six a dit que François Varillon avait fait une grande percée théologique. Et Étienne Borne aussi, que j'avais interviewé avec Marcel Brisebois à l'émission Rencontre à la télévision, comme Jean-François Six. Mais Étienne Borne a parlé d'audace théologique chez François Varillon. Et effectivement, avec ses deux livres, le père François Varillon, jésuite, s'est révélé comme un grand théologien, puis un théologien d'avenir. On aurait pu croire, au vu de son activité de conférencier qui parcourait la France, qu'il était le vulgarisateur de la pensée de quelqu'un d'autre. Dans un sens, il a beaucoup puisé chez Maurice Zundel, mais en fait, sa pensée était profondément assimilée, repensée et devenait originale. Ses deux livres sont l'aboutissement de tout un itinéraire intérieur. Ces livres récapitulent une pensée, Une vie, comme le dit si bien René Raymond. Et François Varion est mort dans l'exercice de cette tâche de conférencier qu'il accomplit jusqu'au dernier jour. Oui, c'est incroyable, il a parlé jusqu'au dernier moment. Depuis plusieurs années, sa santé donnait des signes graves d'inquiétude. Il avait eu à Pâques 1978 un accident, et sur le conseil amical et insistant des médecins et de ses confrères, il avait décidé de renoncer à la plupart de ses activités. La tendresse de Dieu lui a épargné la vieillesse. Mais grâce à Dieu, tout n'a pas pris fin de son rayonnement, puisque plusieurs ouvrages posthumes gardent sa présence, qui étendent même l'influence de sa pensée dans le monde, dans l'Église. Par une circonstance où il est permis de voir un signe de Dieu, un signe providentiel, Charles Hélinger a pu, quelques semaines avant sa mort, l'interroger pendant 9 journées et recueillir de sa bouche une somme de souvenirs, de réflexions dont le livre parut en 1980 sous ce beau titre que je vous ai mentionné tout à l'heure, « Beauté du monde et souffrance des hommes », transmis l'essentiel de sa pensée. Je ne saurais trop vous recommander aussi « Joie de croire, joie de vivre ». Quel livre superbe! Le 15 mars 1978, quelques jours plus tard, il a eu une grave crise cardiaque qui l'avait obligé à diminuer ses activités, puis c'est comme ça qu'il est mort, le 17 juillet 1978. On peut dire qu'il a touché à l'essentiel du christianisme. Il nous a montré la grandeur et la beauté de la foi. A-t-on découvert d'ailleurs le cœur de la foi tant que l'on n'a pas entrevu en Jésus-Christ le Dieu d'amour humble et vénérable et vulnérable partout? On me trouve étrange d'avoir la sainte face dans mon appartement, d'avoir des crucifix. Mais c'est en Jésus-Christ crucifié que je vois toute l'humilité et la bonté de Dieu. C'est le dernier cri d'amour du Père, un amour fulgurant qui se transpose ensuite dans l'ascension, dans la Pentecôte. Ce cri d'amour du Père qui nous accompagne à chaque Eucharistie. Ce cri d'amour du Père qui nous accompagne à chaque instant. Car Dieu n'est ni le Dieu de la justice vindicative qui exigerait le sacrifice du Fils, ni le Dieu du déisme paternaliste qui se contenterait de la médiocrité des hommes. Non, non. Dieu, c'est l'amour. L'amour, c'est Dieu. Le souci de réfléchir constamment à partir de l'expérience a permis au Père Varion de s'exprimer avec une simplicité à la fois lumineuse et profonde. C'est très caractéristique de son style, c'est simple sans jamais être simpliste. C'est ce réalisme spirituel qui lui permet aussi de mettre en œuvre toute sa pédagogie. Et il invite ses auditeurs à un cheminement qui s'appuie sur les objections habituelles, leur permet de les écarter peu à peu. Ça s'enracine sur des bases solides de l'Écriture. Ainsi, il insistait souvent sur la genèse de la foi des apôtres, qu'il nous faut retrouver en lisant les évangiles de très près si nous voulons que notre affirmation de la divinité de Jésus-Christ ne soit pas une pure abstraction. Quand nous disons que Jésus-Christ est Dieu incarné, c'est pas une abstraction, c'est une réalité. Il était d'un réalisme spirituel extraordinaire. Et sa sérénité au Père François Varion, qui ne se presse pas de tout comprendre et de tout résoudre, est magnifique. L'une des lois du royaume de Dieu, c'est la patience qui laisse le temps des germinations puis des maturations. Et le Père Varion tient à dégager l'essentiel de la foi sans en encombrer le chemin par des questions secondes. Il ne se pose pas des petites questions, il va à l'essentiel. Sur le Christ, sur Dieu, sur le bonheur. Il a gagné le Grand Prix catholique de littérature en 1974 et on a écrit « Il est des quelques 15 ou 20 religieux, jésuites ou dominicains, dont l'influence a été décisive et sans lesquels la figure du catholicisme ne serait pas ce qu'elle a été depuis une trentaine d'années. » Et c'est Charles Hélinger qui écrivait dans La Croix au lendemain de la mort du père Barillon « Chaque génération reçoit quelques hommes et femmes dont l'œuvre, le nom, la présence marque la conscience, évoque une certaine façon d'être homme et d'être chrétien. » Et sans hésiter, je place François Varillon parmi ces 10 ou 15 figures qui constituent nos grandes références en ce 20e siècle. Pour ma part, je peux témoigner que François Varillon, comme Maurice Zundel, comme Thérèse de l'Enfant Jésus, m'ont pu apporter que la plupart des autres auteurs que j'ai pu lire. Les autres auteurs qui ont la même pensée, la même réflexion, m'ont bouleversé, m'ont amené à croire que Dieu nous aime à ce point qu'on ne peut plus blesser son amour, que l'amour de Dieu est si grand qu'on ne peut que lui être fidèle, qu'on ne peut que lui demander de nous habiter pour vivre d'amour, être divinisé par son amour. C'est ça que ça veut dire, être divinisé. C'est vivre de l'amour même de Dieu.